Seigneur, je te remercie pour le bon temps de louange qu'on a eu, Seigneur. Je te demande, dans le nom de ton Fils Jésus, de bénir le temps de partage de ta parole, Seigneur. On veut se nourrir spirituellement. On veut avoir ta vision, Seigneur. On veut grandir, on veut connaître ta pensée. Je te demande de te révéler à chacun de nous ce soir, de parler par ta parole, puis de nous faire du bien. Fait qu'on remet ce temps de partage entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. On est en train de continuer une étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines sur l'appel de Dieu. Puis là, on était rendu la semaine passée que l'appel devait changer en vision. Parce que Dieu veut partager sa vision. Il y a une vision pour chacun de nous. Puis il veut qu'on comprenne qu'il nous a appelés, mais il veut aussi déposer dans nos cœurs une vision qui va nous donner une image claire de nous-mêmes, puis de ce que les dons qu'il nous a donnés, puis de l'appel qu'il nous appelle à travailler dans son œuvre. Puis quand tu es saisi de cette vision-là, que Dieu m'a donné tel et tel don, puis là, Dieu m'appelle, puis là, j'avance par la foi dans la vision qu'il m'a donnée, puis notre vision grandit en grandissant dans le Seigneur, on apprend d'autres choses, puis on apprend à se perfectionner, nos talents, ils se multiplient, puis on a de plus en plus de responsabilités parce qu'on est fidèles, puis Dieu nous en confie davantage, afin qu'on porte beaucoup plus de fruits. On a même vu une leçon antérieure qui va nous émonder en plus pour qu'on en porte encore plus. Ça veut dire, il veut couper des branches inutiles de notre vie. Il veut couper des choses qui nous empêchent de porter du fruit afin qu'on en porte encore plus. Parce qu'il dit, quand on va en porter du fruit, Jésus a dit, c'est alors que mon Père est glorifié, quand on porte beaucoup de fruits. Puis il faut pas oublier que notre fruit demeure. Tout ce qu'on porte comme fruit pour Dieu, ça demeure éternellement. Puis ça, faut jamais l'oublier. Tout ce qu'on a fait pour nous-mêmes, pour les choses de ce monde, c'est tout perdu. Tout ce qu'on a fait pour Dieu, on va avoir des récompenses éternelles. Des couronnes, des récompenses. On va voir ce soir l'investissement dans la vision de Dieu et ses avantages. Parce que ça a des avantages de s'investir dans la vision de Dieu. Premièrement, la vision de Dieu, ça a un prix, on est prêt à payer, tout le monde le sait, que plus que tu veux te consacrer au Seigneur, mais ça coûte quelque chose. Ça coûte de ton temps, ça coûte de ton énergie, ça coûte de tes prières, ça coûte de ton investissement, de tout ce que tu as reçu comme don. Ça veut dire qu'il faut que tu renonces à ce que tu auras fait en temps normal pour pouvoir mettre ce temps-là pour Dieu. Ça coûte quelque chose. Des fois, ça coûte même de l'argent financièrement. Quand on veut faire avancer l'œuvre, on investit financièrement. Ça coûte quelque chose. Mais, malgré le coût de tout ce qu'on peut avoir à payer comme coût, parce que ça sous-entend aussi du renoncement, ça sous-entend aussi des souffrances, des efforts, parce que quand t'es dans l'œuvre de Dieu, tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu, tu as des responsabilités, à un moment donné, il faut que tu fasses passer cela en premier, fait qu'il y a des efforts à mettre, il y a du renoncement des fois de loisirs, d'activités. On peut difficilement renoncer à notre travail, à moins que Dieu nous appelle à travailler dans son œuvre à plein temps, mais c'est quelques personnes qui sont appelées à travailler à plein temps dans l'œuvre de Dieu. La majorité des autres chrétiens dans les églises, il y a le pasteur ou un évangéliste qui peut travailler à plein temps. Pour ça, les autres, il faut tout qu'on travaille pour gagner notre pain. Mais notre temps libre, on coupe dans nos activités pour s'investir de plus en plus pour l'œuvre de Dieu. Ça coûte quelque chose. Mais ce soir, on va voir que l'investissement dans la vision de Dieu, ça a des avantages. Ça nous rapporte quelque chose. Jésus lui-même, si on regarde qu'est-ce que Jésus a dit, je vais regarder deux passages que Jésus a dit pour lui. Jésus a dit qu'il était pleinement investi dans la vision de Dieu, mais il en avait une satisfaction d'être investi. Dans Jean 4, le verset 34, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus avait une satisfaction même s'il était pleinement investi dans la vision de Dieu, il était consacré à cela pour le temps que Dieu l'a appelé à faire son ministère, mais il en avait une pleine satisfaction. Ça le nourrissait, ça lui faisait du bien. Plus qu'il en faisait, là, il y avait des guérisons autour de bras, des fois, ça, il veillait tard. Quand il y avait une foule là, qui a de 2, 3 000, 5 000 personnes devant lui, là, il prêchait, c'était le fun. Mais il avait aussi le temps de prier pour les malades. Puis s'il y avait 100, 150, 200, 500 malades, fallait qu'il prie pour les malades, c'est long. Mais c'était pas un effort, c'était pas un fardeau, c'était pas quelque chose qui l'épuisait ou qui voulait fuir. C'était quelque chose qu'il considérait que c'était bénéfique pour lui. Ça le nourrissait, ça lui faisait du bien de s'investir. Puis lui, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Puis je crois que c'est un exemple pour nous. Puis Jésus, quand il a dit cette phrase-là, il voulait qu'on réalise que pour nous aussi, c'est une nourriture, si on le veut. Ça peut être une nourriture de servir Dieu. Ça va être quelque chose qui fait du bien, qui nous nourrit, qui nous donne des forces. Parce que quand tu manges, ça te fortifie. Mais travailler dans l'œuvre de Dieu, ça fait du bien. On va voir d'autres avantages. Jésus, il regardait aussi aux avantages célestes quand c'était le temps de faire des efforts. Parce qu'il n'y avait pas que les avantages terrestres. Jésus, il avait un chemin. Oui, il y en a d'autres sur la terre qui ont passé à mourir pour l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui ont subi le martyre pour l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui ont perdu leur maison, ils ont perdu leur famille, ils ont tout perdu à cause du royaume de Dieu. Mais Jésus, quand lui, il a eu à faire face aux souffrances qu'il a vécues, comme qu'on le voit dans Isaïe 53, je vais en parler quand je vais faire l'étude sur la fête de Pâques à l'émission de radio. Dans Isaïe 53, ça dit que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus était habitué de souffrir. Il n'a pas souffert juste à la croix. Toute sa vie, c'était juste de la souffrance. C'était difficile, sa vie. C'était pas une vie facile. Puis quand il est mouru sur la croix, ça nous dit dans Isaïe 53 qu'il a été enlevé, mort, par la l'angoisse et le châtiment. Il a reçu un châtiment de Dieu, mais il en est mort. Il est mort aussi de l'angoisse que ça lui a donné, ce moment-là de mourir rejeté par les hommes puis rejeté de son Père. Il y a eu une souffrance incroyable dans son intérieur, dans l'homme intérieur qu'il était. Ça n'a pas été facile. Il a accepté de passer par là volontairement, mais ça lui a coûté cher, ça lui a coûté sa vie, mais il a souffert. Et le point que je veux en venir sur le passage de Hébreux, chapitre 12, le verset 2, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il nous dit d'avoir les regards sur Jésus. Nous aussi, quand on souffre pour le royaume de Dieu, quand on souffre pour la vision de Dieu, parce qu'on veut travailler pour Dieu, puis qu'on souffre, il dit « regarde à Jésus ». Regarde à Jésus, c'est le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé la honte, puis s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire, Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, mais là, il était capable de souffrir la croix, puis de mépriser la honte que ça pouvait donner, puis toutes les angoisses, puis les souffrances qu'il a eues intérieurement, puis les souffrances physiques, parce qu'il était battu, puis fouetté, puis battu à coups de poing, puis humilié. Mais Jésus, sa force dans ces moments-là, c'était de penser à la joie qui lui était réservée. Quelle joie! Pas la joie de mourir. La joie après la mort. Parce que Jésus savait parfaitement ce qui l'attendait. Une joie que personne ne va y enlever. Une huile, Jésus avait une huile de joie au-dessus de ses égaux, pendant qu'il était sur la terre, il était béni de la joie du Seigneur en lui. Mais en vue de la joie qui lui était réservée dans les cieux, mais il a accepté de souffrir, de payer sur la croix les péchés de l'humanité. Il a méprisé la honte de le fait de dire, il était cloué parmi les malfaiteurs. C'était humiliant. Il aurait pu invoquer son père, puis il aurait donné une légion d'anges, puis il aurait été libéré. Il n'aurait même pas été obligé d'y aller. Mais il a accepté d'y aller parce qu'il nous aimait, puis il voulait mourir pour nous, pour nos péchés. Fait qu'il y a été, puis il est mort sur la croix. Puis là, à cause de la joie qui lui a été réservée, c'est ça qui a été un de ses avantages qu'il a considéré, puis que ça lui a donné la force d'avancer. On se demande quels sont les avantages de servir Dieu et travailler dans la vision de Dieu. Mais quand tu suis l'exemple de Jésus, ça va être pour toi une nourriture de travailler pour Dieu. Ça va être aussi, pense à la joie qui va être réservée dans les cieux. Un chrétien, il a tout à gagner pour s'engager dans la vision de Dieu. Savez-vous que Dieu, il y a des projets de bonheur pour nous? Il y a un passage dans Jérémie 29, 11 qui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quel est ce projet de paix et de bonheur que Dieu a formé pour nous?
L'autre bord.
La même chose que Jésus. On veut travailler pour l'œuvre de Dieu, si souffrant, il y a un prêt à payer, mais Dieu a déjà préparé notre chemin présentement, des œuvres qu'il a préparées pour qu'on les pratique, puis après, il nous prépare un projet de paix, de bonheur, de joie dans sa présence, en haut. Il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance, même si c'était un chrétien qui est malade, puis même si c'est un chrétien qui va mourir par de la persécution ou par peu importe la souffrance que tu vas avoir traversée, sache que Dieu, il y a un avenir, puis une espérance, puis du bonheur, puis de la gloire pour l'éternité. Alléluia. L'apôtre Jean, il nous dit dans un de ses versets, dans 1 Jean 1,4, Jean, il a souffert, lui, tout pour le royaume. Il a été envoyé sur un île.
Ils ont tous souffert, je pense.
Oui, ils sont tous morts à martyriser. Puis Jean, il est envoyé sur un île, comment t'appelles ça? Un île, il a été exproprié, il a été exilé dans un île déserte. Je sais pas si c'était déserte, mais c'était un île pour séparer du monde. Oui. Mais il a souffert. Mais il avait de la joie. Il dit, et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Malgré tout ce que tu peux vivre en tant que chrétien sur la terre, Jean, quand il était en train d'écrire tout ce qu'il avait vu, les lettres, l'Évangile, les lettres, l'Apocalypse, il a tout écrit les textes, puis ça réjouissait son cœur de pouvoir travailler pour Dieu, dans la vision de Dieu, puis de pouvoir écrire toutes ces choses-là, même si c'était beaucoup d'ouvrages, pour pouvoir le distribuer aux autres chrétiens, ça lui remplissait son cœur d'une joie parfaite. Il faut arriver à ce niveau-là de trouver la joie, puis le bonheur, puis un renouvellement dans nos forces, avec un désir de plus en plus grandissant de servir Dieu, puis d'entrer dans son plan, de travailler dans sa vision qu'il a pour nous. Un autre passage que Jean nous parle, Jacques 1, 25. Écoutez bien celle-là. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Il est en train de nous dire que si t'es une personne qui plonge tes regards dans le Nouveau Testament, tu lis le Nouveau Testament, tu lis l'enseignement de Jésus, tu te nourris de l'enseignement de Jésus, puis là, T'es pas oublieux. Tu te mets à l'œuvre. Tu te mets à l'œuvre en train de travailler dans ce que Dieu te demande. Ben, il dit, tu vas être heureux dans ton activité. Ça va te procurer une joie. Tu vas avoir une joie de servir Dieu. Tu vas être content de servir Dieu. Tu vas être heureux dans ton activité. Fait que s'il y a des gens qui se sentent malheureux, qui sentent qu'ils ont de la vie difficile, la vie chrétienne, que c'est de la souffrance, voulez-vous avoir le cœur rempli d'être heureux, d'être dans la joie, puis d'être dans d'être comblé intérieurement? Mettez-vous à l'œuvre dans l'œuvre de Dieu, puis vous allez voir quelle satisfaction que ça peut donner quand tu es impliqué au maximum. Tu deviens heureux, ça te fait du bien, tu es content de le faire. Moi, j'ai un plaisir à faire ce que j'ai à faire. Je ne sais pas si vous le savez, ça me rend heureux. Seigneur permet que j'amène sa parole. J'ai prêché dimanche, je prêche à soir. J'ai 2 émissions de radio à faire cette semaine. Puis je mets ça sur Internet. Je vois les gens qui viennent. Je suis fier. Puis ce qu'on peut ressentir en dedans, on est heureux d'être actif.
En tout cas, pas d'orgueil.
C'est pas de l'orgueil. Je vous partage un témoignage. Ça m'enfle pas du tout. C'est quelque chose d'excitant.
C'est ça. Être fier de quelque chose, c'est pas être
orgueilleux. Non. Aucunement qu'il faut dire « J'ai fait ça par mes capacités. » Pas du tout. C'est toujours la gloire à Dieu. Mais on peut être heureux dans notre activité en autant qu'on embarque puis qu'on y va. Alors, regardez bien dans Acte 20, 35, qu'est-ce qu'il nous est dit. Paul qui est en train de parler.
Il réalise qu'en quoi la parole dit vrai.
Ouais. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, puis se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui a dit ça, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Jésus a dit ça, il a dit ça pour ceux qui veulent s'impliquer dans son œuvre. Plus que tu veux te donner, tu vas en avoir du bonheur. Tu vas en avoir plus que de recevoir. Recevoir, là, mais quand tu as compris qu'il y a de quoi de bonheur à donner, tu t'investis. Puis Paul, il l'a fait. Lui, il dit qu'il a travaillé quand il partageait ce passage-là. Il a pourvu à ses mains pour pouvoir gagner son pain, puis il s'est investi dans l'œuvre de Dieu, puis il dit, c'est de cette manière-là que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les autres, parce qu'il a dit, rappelez-vous ce que Jésus dit, c'est quand s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fait qu'il y a une grande satisfaction que d'être impliqué dans la vision de Dieu. Il y a plein d'avantages. Un autre avantage aussi, c'est de marcher par l'Esprit. Quand tu marches dans la vision de Dieu, le Saint-Esprit va te faire connaître des moments spéciaux. Éphésiens 3, 19. Il est en train de nous énumérer plein de pas de choses. Puis là, il arrive au bout et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut combler ses serviteurs dans une connaissance de l'amour de Christ, puis être rempli de toute la plénitude de Dieu. Plus que tu veux t'approcher de Dieu, plus que tu veux travailler pour lui, plus que tu vas grandir dans le Seigneur, plus que tu vas découvrir l'amour de Dieu, puis plus que tu vas être rempli de sa plénitude. Il y a une satisfaction personnelle que Dieu veut donner, Dieu veut combler notre intérieur par quand on va être actif dans son œuvre. Un autre passage qui nous parle de ce que le Saint-Esprit peut faire en nous, dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. le fruit de l'Esprit en nous, vous nous donnez de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience. Ça fait partie de ce que Dieu veut nous communiquer intérieurement. C'est des sentiments merveilleux d'être rempli de l'amour de Dieu, d'être rempli de la paix de Dieu, d'être rempli de la joie de Dieu. Je ne sais pas si ça vous donne un petit intérêt, une petite étincelle, un petit désir, mais c'est quelque chose qu'on devrait être assoiffé de vouloir être rempli de cette joie-là, puis d'être heureux, puis d'avoir le bonheur. C'est dans la présence et dans le service pour Dieu qu'on découvre tout ça. Le Seigneur, il nous demande de regarder les souffrances avec ses yeux à lui. Parce que si on regarde les souffrances d'avance, là, puis on se dit, ah ben là, je vais souffrir, puis je regarde ça aux yeux humains, je voudrais pas y aller. Parce que notre corps, ça y tente pas. Notre corps, là, ça y tente pas de souffrir. Si je regarde ça aux yeux humains, je peux reculer à cause de la souffrance. Puis je peux m'empêcher d'avancer dans l'œuvre de Dieu à cause de la souffrance que je vois venir. Si t'arrives, mettons, t'es au travail, puis tu veux partager de la parole de Dieu, mais t'as peur de faire rire de toi, puis t'as peur que le monde se moque de toi, ou t'as peur de manger des bêtises, puis là, ils te disent des choses, puis là, si tu penses à ça avant de souffrir, puis là, tu te dis, mais je travaillerai pas pour Dieu, je rentrerai pas dans la vision de Dieu, j'ai trop peur de la souffrance, j'ai trop peur de faire rire de moi, j'ai trop peur, là, je recule, j'ose pas, puis je m'enfuis, comme Jonas qui s'est enfui. Mais Dieu veut pas qu'on s'enfuit. Il dit, si tu viens qu'à souffrir, regarde ça avec les yeux, avec mes yeux à moi. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce passage-là, Jésus, en disant ça, dans Matthieu 5, 11? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il faut regarder les souffrances avec les yeux de Jésus, pas avec nos yeux à nous. Si on anticipe qu'on va subir des souffrances, Dieu nous dit, réjouis-toi de cela.
Comment dit, il faut regarder l'avenir devant nous.
Tu regardes l'avenir, puis tu fonces pour l'œuvre de Dieu avec les yeux de Dieu, puis tu recules pas. Tu fonces dans ce que tu as à faire pour plaire à Dieu, pour accomplir ta mission, pour répondre à la vision, à l'appel et à la vision de Dieu.
Mais c'est pas facile à faire, là.
Non, mais il nous dit, réjouis-toi, puis sois dans l'allégresse des souffrances. Si tu as des persécutions, ils sont en train de rire de toi, ils sont en train de parler dans ton dos. Ils sont en train de parler dans ton dos, réjouis-toi. Ils sont en train de se moquer de toi, réjouis-toi. Ils sont en train de te frapper, réjouis-toi. Ils sont en train de t'insulter, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse, parce que c'est comme ça qu'ils ont persécuté les prophètes avant nous.
Et pire,
ils en sont morts. Tous les prophètes, la plupart, sont tous morts. Jésus était mort, les 12 apôtres sont morts. Tout le monde passe par des souffrances. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Et là, l'avantage de servir Dieu, les récompenses à venir. 2 Corinthiens 4, 17, ça l'amplifie encore plus, cette pensée-là. Écoutez bien ça. Car nos légères afflictions, les petites afflictions de rien, là, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Chaque petite affaire d'affliction qu'on subit présentement, ça va produire, ça produit. Un produit, c'est une multiplication, c'est ça? En mathématiques, le produit, c'est une multiplication qui est le produit. Mais chaque affliction est multipliée par un poids éternel de gloire. Quand on va arriver l'autre bord, c'est un poids éternel de gloire pour chaque affliction, chaque souffrance, chaque petite affaire qu'on endure pour l'œuvre de Dieu, parce que tu t'investis pour la vision de Dieu, Dieu voit tout ce qui t'arrive.
Je vais te poser une question, OK? Ben, c'est bien beau, hein, tout ça. Mais quelqu'un qui accepte le Seigneur, OK, et puis qui n'a rien fait, OK, qui n'a pas travaillé pour l'œuvre de Dieu, il n'a rien fait, là, juste par grâce, là. Par grâce, là. C'est juste par grâce, là. Il monte au ciel, lui. C'est qu'il arrive en haut, mais il n'a absolument rien à présenter à Dieu. Okay, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de...
La Bible dit qu'il va être sauvé comme au travers du feu.
Oui, mais sauf
il
n'y
a
que,
pas de récompense.
Sauf que c'est écrit aussi, I'm going to wipe your tears.
Il va enlever la souffrance de nos yeux parce qu'il n'y a plus de souffrance de nos bords.
C'est que, ça, c'est juste une idée que je te donne, là. Ça se peut qu'il arrive là, il n'y a absolument rien à offrir à Dieu, puis ça le rend triste. Il va pleurer. Tu sais, ça le rend triste de, comme quoi qu'il n'y a rien à apporter à Dieu, là. Tu sais, il n'y aura plus, mais Dieu va...
Il essuie les larmes, parce qu'il y a des souffrances c'est aussi ça. De la perte de nos chairs, qui sont pas là, puis ensuite, il n'y aura plus de souffrance au bord.
Il essuie nos larmes aussi. Fait que, dans le fond, on n'est pas perdant, OK, on n'est pas perdant, mais sauf qu'on réalise, puis après ça, Dieu, il fasse tout ça, là, on n'est pas malheureux, là.
Non.
Non, c'est veut dire...
T'es pas perdant d'être sauvé.
Non, c'est ça.
Mais t'es privé de récompense.
C'est ça. Mais oui. Puis t'es privé de récompense. T'as rien amené à Jésus non
c'est
plus.
C'est ça.
Là.
C'est pour ça que Jésus dit, amassez-vous pas des trésors sur la terre, où ce que la teigne et la rouille détruisent et voleurs persédéront. Amassez-vous des trésors dans les cieux.
C'est ça.
Ça, c'est pendant qu'on est dans notre vie terrestre, le but qu'on est là, on est en train de se ramasser un trésor dans les cieux.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui accepte le Seigneur sur la jambe. Il perd beaucoup de temps, là. Il ramasse rien, là.
On en perd du temps. Tout le monde en perd
c'est
du temps.
C'est épouvantable.
Mais chaque fois qu'on a une occasion, il faut ramasser des récompenses pour la vie éternelle. On ne faut pas penser qu'on va avoir le château l'autre bord si on n'a rien
on a
fait
ramassé,
dans
là.
Faut volontairement être en train de s'impliquer puis de se donner.
Parce que Dieu est en train de préparer une place pour nous autres.
Oui.
Tout dépend aussi, probablement.
Il y en a qui vont être plus proches du Seigneur. Oui, ça a rapport avec notre éclat, notre apparence, notre gloire, l'autre bord, nos couronnes. Ça a tout rapport avec l'œuvre qu'on aura faite. Alors, regardez bien le dernier passage dans Apocalypse 19. Ça nous parle des noces de l'agneau. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. »
Préparée, c'est ça.
C'est ça, là. Oubliez pas le mot « préparée ». Son épouse s'est préparée.
Il y en a qui ne se préparent pas.
Savez-vous qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Quand on va arriver aux noces de l'agneau, on va avoir des superbes de belles robes.
Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie, mais on va être...
T'es pas sauvé par tes œuvres, mais toutes tes œuvres comptent pour pouvoir être revêtu dans la vie éternelle.
C'est ça.
Je vous dis, frères et sœurs, il faut racheter le temps puis de s'investir. Il faut se mettre à évangéliser. Il faut se mettre à répandre la parole. Il faut se mettre à prier. On va en voir plein des ministères différents qu'on peut s'investir dans la suite de cette étude-là.
Il y a différentes couronnes aussi qu'on peut recevoir.
Il y a les couronnes, puis il y a le revêtement, là, il dit, elle lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin. Un fin lin, c'est un vêtement de riche.
Wow.
C'est un fin lin éclatant. Il est brillant, il est lumineux, notre robe, pur. Puis notre fin lin, c'est les œuvres justes. On va être recouvert de nos œuvres. C'est notre richesse, l'autre bord, ça va être les récompenses que Dieu va nous donner. On a perdu beaucoup de temps, mais pour le reste du temps qui nous reste, investissons-nous à 100% pour les choses de Dieu, pas pour des choses pour nous-mêmes. On ne reçoit pas de récompense pour ça. Il faut s'investir dans l'œuvre de Dieu, puis il y a beaucoup d'avantages à s'investir dans la vision. Puis si on ne le sait pas encore, mais commencez tout de suite à prier, « Seigneur, c'est quoi les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? C'est quoi l'appel que tu as sur ma vie? Donne-moi une vision claire, que je puisse me voir dans mes capacités, dans mes dons que tu m'as donnés. Qu'est-ce que je peux faire pour ton service? Puis que j'ai une vision claire. Dieu m'a appelé à cela et je suis en train de le faire. » Il faut avoir une vision, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis Dieu en a une. Il a des projets pour nous. Puis il veut nous les révéler, les projets. Si on ne les voit pas encore, mais il faut lui demander. Parce que si on ne les voit pas, c'est parce qu'on ne lui demande pas. Il va nous confier, il nous a déjà confié des choses à mettre à son service. Puis si on est fidèle avec ça, il va nous en confier encore plus. C'est ça que ça dit dans la parole. Investissons-nous dans son œuvre et soyons encouragés par les avantages que nous pouvons obtenir d'être dans son œuvre. Seigneur, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus pour ta parole que tu viens de nous donner. Je te remercie, Seigneur, parce que ça fait du bien. Ça nous renouvelle une vision claire de tous les avantages qu'on a de te servir et puis de vivre pour toi. On te demande pardon, Seigneur, pour tout le temps qu'on a perdu, Seigneur, toutes les choses qu'on aurait pu mettre à ton service qu'on n'a pas faites. Mais on te demande, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous faire voir clair l'appel que tu as mis sur nos vies. Qu'on puisse voir l'appel que tu as mis, cette vision, dépose-la, grave-la dans notre cœur, qu'on puisse se voir avec tous les talents et les dons que tu nous as donnés, qu'on puisse les mettre à ton service et te glorifier dans tout cela, Seigneur. On remet nos ventres à tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.